CFM Lacaune, le mag.
Dans le mag aujourd'hui, je suis avec Antoine Daragon, président du syndicat des forestiers privés du Tarn. Donc bonjour monsieur Daragon, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour madame.
Alors je suis très heureuse de vous avoir parce qu'ensemble nous allons bien sûr parler des bois, des forêts qui nous entourent. Il faut savoir que dans le Tarn, c'est 75% des forêts qui sont privées. Donc vous étiez forcément notre interlocuteur privilégié.
La surface forestière du Tarn est de 193 000 hectares, c'est-à-dire grosso modo, ça nous donne un taux de boisement de 30% du département. Et ces 193 000 hectares appartiennent à, pour 75% environ, je crois même un peu plus, 78%, à des propriétaires privés. Et ces propriétaires privés, dans le Tarn, sont au nombre de près de 41 000.
41 000, ça paraît énorme. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un petit peu les profils de ces propriétaires? Parce que ce n'est pas forcément ce qu'on pense, ce n'est pas forcément pour l'exploitation du bois.
Non. Alors, si vous voulez, vous avez environ pas loin de 25 000 propriétaires qui ont moins d'un hectare.
Donc, pas beaucoup.
Voilà. Ensuite, vous avez à peu près 10 000 propriétaires qui ont entre 1 et 4 hectares. Vous en avez 3 000 qui ont entre 4 et 10. Et ensuite, bien entendu, ça diminue. Alors, vous en avez entre 25 et 100, il n'en reste pas beaucoup. Et au-delà de 100, ce sont souvent, il y a bien sûr quelques propriétaires individuels, mais au-delà de 100, c'est plus souvent des groupements forestiers.
Bien sûr.
Le groupement forestier a été soit un moyen de rassembler des petits propriétaires pour avoir une unité de gestion qui permette de faire une gestion convenable, ou alors c'est tout simplement les groupements forestiers se sont créés pour éviter que les successions successives n'amènent à créer de trop petites entités. Donc vous avez souvent des groupements forestiers qui rassemblent des dizaines ou quelquefois des centaines de cousins dont les aïeux ont préféré éviter que les terres ne se morcellent.
Donc en fait on comprend bien que la plupart finalement des propriétaires, c'est des familles qui ont des petites forêts, qui vont planter peut-être une forêt pour laisser une trace entre guillemets.
Ou pas forcément pour laisser une trace. Alors, vous avez eu beaucoup, par exemple, dans les années entre les deux guerres, avec la déprise agricole, notamment dans les monts de la Caune, vous avez eu beaucoup de terres qui étaient des terres d'élevage, ou des terres agricoles, et qui ont été, à ce moment-là, boisées, notamment, à l'époque, il y a eu beaucoup de gens de Mazamé qui ont boisé sur les hauteurs. Et d'ailleurs, le profil des forêts n'est pas du tout le même. Si vous regardez une carte du Tarn, le profil n'est pas du tout le même entre ce qu'on peut trouver au nord-ouest du département, dans ce qu'on appelle les causses, ou quand vous regardez, où là vous trouvez essentiellement des chênes pubescents, quand vous regardez le Ségala ou la Châtaigneraie, vous avez essentiellement des chênes, des châtaigniers et quelques douglas, et vous avez au contraire dans le sud du département, qui est la région la plus boisée, je dirais le sud-est, c'est-à-dire la Montagne Noire et les monts de la Caune, là, vous avez quasiment la moitié de la forêt tarnaise, 84 000 hectares, qui se trouvent dans cette partie du Haut-Languedoc. Alors là, vous avez beaucoup plus de résineux. Je vous parle notamment de ces régions qui ont été peuplées, qui ont été boisées entre les deux guerres.
Oui.
Beaucoup d'épicéas, avec les problèmes sanitaires qu'on connaît, le douglas, sapin, des hêtres, des chênes et des châtaigniers.
Alors, on va revenir un petit peu dans quelques minutes, si vous le voulez bien, aux enjeux de la forêt d'aujourd'hui et notamment peut-être sur les monts de la Caune. Mais avant, on ne pouvait pas passer à côté parce qu'on va dire que la période automnale, c'est la saison un peu privilégiée pour se promener en forêt. Comme on vient de le dire, 75% des forêts sont privées. Alors, est-ce qu'on peut se promener comme on veut dans la forêt. Est-ce qu'on peut ramasser ce qu'on veut, châtaignes, champignons, bois, rispounsous, ou est-ce que quand même il y a des règles? On va les rappeler peut-être.
Alors, théoriquement, quand on n'est pas chez soi, on est chez quelqu'un.
D'accord, donc on n'y va pas.
Donc théoriquement, on n'y va pas. Bon, moyennant quoi, entre le code civil et puis les usages, il y a des différences.
Bien sûr.
Je pense que l'immense majorité des propriétaires, si on leur demande la permission de se promener chez eux, ils disent oui. Le gros des propriétaires, si vous leur dites bonjour monsieur, bonjour madame, quand vous passez chez eux, est-ce que je peux ramasser 3 rispounsous et 4 champignons, ils vont vous dire oui. Je crois que ce qu'on n'aime pas, ce que le propriétaire n'aime pas, comme vous, quand vous êtes dans votre jardin, c'est quelqu'un qui passerait dans votre jardin sans vous dire bonjour, qui ramasserait des salades sans vous demander la permission, vous seriez pas très content. Je crois que très souvent, c'est une question de bonne manière, de savoir-vivre, de courtoisie, de communication. Tout se règle d'ailleurs très souvent quand on est aimable et poli. Bon, les choses s'arrangent. Je crois qu'un propriétaire, ce qu'il n'aime pas, c'est de voir une voiture garée à côté de ses bois et quelqu'un qui y enfourne 4 paniers de 20 kilos de cèpes. Là, vous comprendrez qu'il n'est pas très content. Non, je pense que le conseil à donner, c'est éviter d'aller de se promener dans les endroits qu'on connaît pas, quand on connaît pas les gens. Et si on rencontre quelqu'un parce qu'on s'est un peu égaré,
on dit bonjour, on est poli.
C'est une question de courtoisie dans beaucoup de cas.
On aura reposé un petit peu les règles. Après, il faut savoir que bien sûr, on peut aussi aller dans les forêts qui sont communales, domaniales, voilà, avec d'autres règles. Mais donc, il n'y a pas de problème en soi. Il faut juste, comme vous le disiez, être courtois et poli.
Alors, voilà. Donc, en théorie, on ne va pas chez les autres, mais pratiquement, je pense que les autres sont souvent très gentils et il suffit d'être courtois et gentil. Voilà.
Donc, tout se passe bien quand on est courtois et gentil. Alors, j'en profite parce que je vous ai un peu sous la main, monsieur d'Aragon, pour voir avec vous quels sont les enjeux de la forêt d'aujourd'hui. Il y en a beaucoup. On n'aura pas le temps de tout aborder dans le détail. Mais j'ai sélectionné, on va dire, 3 grands thèmes. C'est le réchauffement climatique avec des essences nouvelles, la mortalité, les maladies. On en a parlé il y a un instant. Les risques incendies aussi, parce qu'on l'a vu cet été, pas forcément dans le Tarn, mais ça pourrait arriver, puisque vous le disiez quand même, hein, on a un département très boisé. Et puis peut-être un petit mot sur le marché du bois. Par quel sujet souhaitez-vous commencer? Je vous laisse le choix.
parmi les risques que court la forêt, vous avez, quand on plante, quand on fait de jeunes plantations, c'est notamment les cervidés qui font des dégâts qui peuvent faire des dégâts sur les plants. Et la protection des jeunes plantations contre le gibier est quelque chose d'extrêmement onéreux. Vous avez également l'autre risque, c'est le changement climatique. Alors cette année par exemple, on est en train de faire l'inventaire des dégâts causés aux jeunes plantations et aux vieilles plantations. Mais il est certain que la forêt a souffert de 2 choses, de la chaleur et du manque d'eau. Je crois qu'on rentre, grosso modo, dans notre 6e mois de sécheresse, parce qu'il y a eu très peu d'eau en septembre. En octobre, moi, j'ai pas l'impression qu'il en soit tombé beaucoup. Et donc, on a eu un été vraiment très sec. Et il y a beaucoup de plantations qui ont été faites pendant l'hiver dernier ou au printemps dernier. Beaucoup de plantations qui sont mortes. Qui ont crevé, beaucoup de plants ont crevé. Alors ça dépend des essences. Certaines essences vont résister mieux que d'autres. Si on prend dans les résineux, le Douglas a énormément souffert. Il semblerait pour l'instant que les cèdres se comportent mieux.
D'accord.
Mais l'inventaire n'est pas terminé. Alors, depuis un certain nombre d'années, parce que c'est pas la première année de sécheresse, et c'est pas depuis cette année qu'on parle de réchauffement climatique, bien entendu, les forestiers réfléchi sur les essences à installer. Si je prends par exemple le cas prenons le feuillu le plus connu qui est le chêne. Aujourd'hui, on va éviter de planter des chênes pédonculés et on va beaucoup plus planter des chênes pubescents, dont on sait qu'ils vont beaucoup mieux résister à la sécheresse et aux coups de chaud. Et si on considère les boisements résineux, l'on va planter des Douglas à une altitude beaucoup plus élevée qu'avant. On ne s'amusera pas à planter, comme il y a 50 ans, à 300 mètres d'altitude. On va monter à 600 mètres, 700 mètres, en choisissant des endroits pas trop exposés au soleil. Ou alors, on va préférer, à basse altitude, on va préférer planter du cèdre.
D'accord.
Le cèdre de l'Atlas, essentiellement, et qui est supposé résister beaucoup mieux aux évolutions climatiques qui nous menacent. Alors, le troisième danger, qui est lié au précédent, c'est-à-dire qui est lié à la sécheresse et à la
Bon,
chaleur,
au manque d'eau, oui.
c'est les incendies.
Bien sûr. Et
Alors,
là, oui, pardon. Allez-y, oui, pardon.
les incendies, autrefois, menaçaient essentiellement les départements de l'arc méditerranéen. Mais il est certain que cette année, même les départements comme le Tarn, comme l'Aveyron, commencent à se dire qu'il va falloir faire quelque chose, c'est-à-dire veiller à faire des débroussaillements là où c'est nécessaire, essayer de maintenir ouvertes des voies d'accès pour les véhicules d'intervention. Il y a dans le département, je crois, 55 communes qui sont soumises à des obligations légales de débroussaillement, puisque les services de pompiers vous diront, nous, quand on intervient, on va d'abord s'occuper des personnes, bien
Bien
entendu,
sûr.
des personnes, et puis la sécurité des biens, des maisons. Et ensuite seulement, on va intervenir dans la forêt. Donc il est bien évident que si les gens ont pris la précaution de bien débroussailler, comme ils en ont l'obligation, autour de chez eux, si les voies d'accès, les bordures des voies d'accès sont débroussaillées, si donc les bâtiments et les personnes ne courent pas peu de risques, à ce moment-là, les services d'intervention de lutte contre l'incendie vont pouvoir se consacrer à la forêt. Mais bien entendu, il faut que, au préalable, on ait réglé, on ait organisé la protection des biens et des personnes.
Bien sûr.
Et tout ça dans le cadre d'un document qui est un document qui s'appelle le schéma départemental de défense contre l'incendie, SDDFCI.
Qui est d'ailleurs en train d'être remise à jour, hein, voilà, la préfecture l'avait annoncé, je crois, il y a quelques mois.
Alors, il a été réédité, il me semble, il y a 6 ans, il y a 3 ans, et il court pour encore 3 ans. Mais il est certain que je crois que cet hiver, nous allons tous nous plonger dedans pour voir si nous appliquons bien les prescriptions de ce schéma.
Donc ça, c'était, on va dire, un mot sur les risques d'incendie. Un autre enjeu de la forêt aujourd'hui, ben, c'est tout simplement le marché du bois, qui est quand même un marché important dans le département du Tarn, avec une fluctuation des prix qui ont augmenté en 2021, je crois, et qui ont baissé très fortement en 2022. C'est ça?
Les cours du bois, quand on regarde bien, on s'aperçoit que depuis 1980, ils n'avaient quasiment pas changé, c'est-à-dire que peut considérer qu'ils avaient baissé, et ils avaient baissé de l'équivalent en inflation, c'est-à-dire que il aurait fallu multiplier les prix de 1980 par 3 ou 4 pour avoir leur équivalent aujourd'hui. Donc on a eu l'année dernière, on a eu depuis 2 ans, une hausse des cours des bois qui ont permis de rattraper une partie du retard, mais très loin, on est très loin d'arriver au prix qu'on aurait dû avoir pour avoir l'équivalent de 1980. Donc il y a eu vraiment une forte augmentation des prix du bois, mais qui est suivie depuis 3 mois d'une baisse de ces mêmes cours. Les Douglas, qui avaient fortement augmenté par exemple, qui avaient quasiment doublé, pas loin, ont vu leur prix baisser d'environ 25% depuis le mois de juillet.
Et qu'est-ce que du coup ça signifie pour les forestiers, enfin, est-ce qu'aussi il y a une réflexion à avoir sur les débouchés du marché du bois, enfin, est-ce que, enfin, je suppose que c'est un sujet auquel vous réfléchissez quotidiennement finalement.
Alors, c'est très compliqué le marché du bois parce que, si vous voulez, ce n'est pas uniquement un marché local.
Oui.
Une partie des bois sont exportés vers l'Asie et en même temps, la demande s'est accrue puisque depuis avant déjà l'invasion de l'Ukraine, la Russie avait bloqué une partie de ses exportations. Les maladies avaient mis des bois, beaucoup de bois scolytés sur les marchés. Si vous voulez, toutes ces choses-là jouent les relations américano-canadiennes sur les importations de bois, qui avaient également entraîné beaucoup de modifications sur le, qui avait une forte incidence sur les marchés. Et alors aujourd'hui, par contre, ce qui entraîne en partie la baisse des cours, c'est d'une part qu'il y avait eu de grosses reconstitutions de stocks qui avaient été faites ces derniers mois, les gens y ont un peu peur de manquer. Donc aujourd'hui, les stocks ont été refaits, la demande baisse et on anticipe une forte diminution des chantiers de construction. Il y a beaucoup de permis de construire, de gens qui avaient prévu de construire, qui ne vont pas construire parce que les matériaux ont augmenté, parce que les taux d'intérêt vont augmenter, et donc les ambitions de beaucoup de personnes sont revues à la baisse. Donc tout ça va probablement jouer dans les mois à venir sur les cours du bois.
D'accord. Donc on voit que quand même c'est que la forêt qui nous entoure, on parle bien sûr de promenade de champignons parce que c'est la saison automnale, mais on voit qu'il y a des véritables enjeux derrière, à la fois des enjeux de société qui nous touchent à tous finalement dans le sens des incendies, du réchauffement climatique, mais aussi par rapport vraiment à une économie.
Oui, exactement, parce que il y a quand même le bois est de plus en plus présenté, avec raison d'ailleurs. Mmh. Comme un matériau qui a d'immenses avantages, c'est que notamment il capte le carbone, et on sait tous très bien qu'il faut capter du carbone. On se rend tous bien compte qu'il vaut mieux avoir utilisé du bois que des plastiques qui sont issus du pétrole. Donc oui. Le bois retrouve ses lettres de noblesse. Pour pouvoir avoir du bois, il faut en planter, il faut entretenir les forêts, il faut les couper quand elles arrivent en maturité. Donc, si vous voulez, souvent, il y a des gens qui poussent des cris parce qu'ils voient qu'on coupe des arbres et des forêts. Mais ils ne poussent pas de cris quand on moissonne un champ de blé. Effectivement, c'est peut-être la forêt est plus séduisante, peut-être. Mais il faut se rendre compte que toute chose a une vie, a un début et une fin, et que les arbres doivent être coupés si ces mêmes personnes qui ne voudraient pas qu'on coupe les arbres veulent avoir une table en bois, veulent avoir des pelets pour mettre dans leur poêle, etc., etc. Donc il y a une vraie économie. Il faut pas oublier qu'une forêt qu'on coupe, on va stocker, le bois coupé va se permettre de stocker du carbone sous forme de planches, sous forme de fenêtres, sous forme de meubles, etc. Et que quand on va replanter une forêt derrière, eh bien la jeune forêt va consommer énormément de carbone. Donc c'est pendant cette période de croissance qu'une forêt capte le plus de carbone, et ce n'est pas une forêt vieillissante, au contraire, n'en capte plus, et si on laisse trop d'arbres mourir sur place Et si on laisse trop d'arbres par terre dans la forêt, à ce moment-là, au contraire, on va avoir un dégagement de carbone.
Donc on le voit, un sujet complexe. Alors je suis désolée Antoine d'Aragon, il va falloir qu'on termine là cette interview, mais je suis sûre que je vous recontacterai pour d'autres sujets. En plus, il y a des choses en cours, des réunions qui arrivent. Il y avait aussi une grosse réunion qui a eu lieu sur les chemins notamment. On ne peut pas en parler aujourd'hui, mais on aura l'occasion bien sûr de refaire une émission avec vous puisque c'est un sujet qui nous intéresse sur le département du Tarn. Merci beaucoup, je le rappelle quand même, que je rappelle que vous êtes présidente du syndicat des forestiers privés du Tarn. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Syndicat auquel il faut adhérer.
Voilà, donc ça c'est dit. Merci beaucoup.
Bon, madame.